has the open shot. Cousins. Full hand stand. Look out, ball.
Bogdanovich, 3 seconds. Bogey
for the win.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Sacramento Talk, le podcast de Kings France. Dans ce podcast, nous traiterons de l'actualité des Sacramento Kings en français et dans des épisodes hors série de l'histoire des Kings. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons le résumé de l'été et la preview de la saison. Et on commence tout de suite avec le résumé de l'été. Pour commencer, on a eu les arrivées qui sont faites à la draft avec Devion Mitchell, sélectionné en numéro 9, et Nemias Keita, sélectionné en numéro 39. Pour ceux qui ont vu notre émission en live, le choix de Devion Mitchell nous a un peu surpris au premier abord, mais plus on avance, plus on se dit qu'en fait le choix est cohérent par rapport au projet de Monte McNair. En effet, ce qu'on a vu sur les premiers matchs de pré-saison et sur la Summer League nous montre que Mitchell a une excellente mentalité et qu'il pourrait faire changer la mentalité de l'équipe et l'aider à s'améliorer en défense. Donc, à ce stade, ça nous paraît être un bon choix. Parmi les autres arrivées sur le marché de l'été, on a eu Tristan Thompson, qui est arrivé en provenance des Celtics dans un deal à 3 équipes, qui a vu Delon Wright partir à Atlanta. Également signé Alex Len pour un nouveau contrat de 7,6 millions de dollars sur 2 ans. Alex Len qui a passé la saison dernière entre les Raptors et les Wizards, et nous avons appris un petit peu plus tôt dans cette saison qu'en fait, lors de son premier passage à Sacramento, il souhaitait re-signer à Sacramento. Puis finalement, ça ne s'est pas fait, le front office a préféré prendre une autre direction. Et puis finalement, le revoici aujourd'hui, il a dit que lui-même, voilà, il voulait rester à Sacramento. Donc on est très content du coup de l'accueillir, puisque des joueurs qui veulent venir à Sacramento, qui veulent revenir et qui veulent y rester, ça ne court pas les rues. Surtout pour le rôle qu'il va avoir. Voilà, il sait qu'il va jouer un rôle de troisième pivot. Donc je pense que la signature d'Alex Len est une bonne chose, dans la mesure où ça va nous apporter de la défense, un petit peu de viande, un petit peu d'expérience. Et voilà, ça pourra compléter les minutes derrière Rishon Holmes et Tristan Thompson. Parmi les re-signatures, on a évidemment, je viens de le citer, la re-signature de Rishon Holmes. C'est un contrat de 46 millions sur 4 ans. Contrairement à ce qu'on a pu entendre par ailleurs, ce n'est pas un contrat de 55 millions sur 4 ans. C'est Bobby Marks d'ESPN qui a rapporté ces données. En effet, en fait, les Kings, en l'état de leur cap, et s'ils ne réalisaient pas de trade, ne pouvaient pas donner à Rishon Holmes un contrat plus élevé que ce qu'on appelle les early birds, c'est-à-dire, voilà, c'était maximum 46 millions sur 4 ans pour Rishon Holmes. Donc voilà, ce qui en fait une très bonne affaire au vu de son rendement, et si on considère le fait qu'il sort de sa meilleure saison en carrière. On a également re-signé Mo Harkless pour un contrat de 9 millions sur 2 ans, et Terrence Davis pour un contrat de 8 millions sur 2 ans. Ce sont deux joueurs qui étaient arrivés à Sacramento à la trade deadline de la saison dernière et qui ont montré de belles choses sur la fin de saison. Donc ces re-signatures sont intéressantes et confirment le projet de Monte McNair de vouloir renforcer la défense des Kings. Et parmi les départs, donc, j'en ai parlé juste avant, il y a eu le départ de Delon Wright en direction d'Atlanta dans le cadre de l'arrivée de Tristan Thompson. Il y a Justin James qui a été coupé peu avant la date de garantie de son contrat, puis Cal Gayle qui a été laissé sans contrat. Donc du coup, je voulais juste savoir, Laurent, ce que tu pensais de cette intersaison.
Bah écoute, j'ai pas pensé grand-chose dans le sens où il n'y a pas eu non plus des mouvements extraordinaires. Je pense qu'on est dans la continuité de la deuxième partie de la saison dernière. La première partie de saison avec le banc que nous avions, des Corey Joseph, des Belicha, tout ça, c'était un peu compliqué. À la trade deadline, on a réussi à faire venir Harkless, Davis, enfin des bonnes petites signatures qui nous ont aidés malgré le fait qu'en deuxième partie, on a eu pas mal de blessures et qu'on a fini un peu la saison en mode YOLO, sans plus personne. Donc voilà, on est dans la continuité de la deuxième partie de saison. Après, évidemment, on a beaucoup parlé de Davion Mitchell. On était en live pendant la draft, on a été très surpris. encore une fois, c'est un peu le même, comment dire, le même principe que Marvin Bagley. Ce n'est pas le joueur que nous avions remis en cause, c'est le fait d'avoir drafté un troisième meneur. Perso, je ne connaissais pas. Je ne suis pas très calé NCAA. Je savais que c'était un gros défenseur, mais sans plus. Surtout que son nom n'était sorti, n'avait fuité nulle part du côté des insiders. C'était plutôt Moody, Sengun, voire Wagner, mais qui était parti en 8. Donc, ouais, très, très surpris par cette draft. Peut-être qu'il nous fallait un poste 3, parce qu'on est un peu démunis à ce niveau-là. Mais force de constater que la Summer League et même le premier match de pré-saison, voilà, il nous a déjà fait mentir. Et on est très, très hypé par ce joueur. La draft de Keita, c'est génial pour la communauté portugaise, on va dire. On est content de l'accueillir, mais bon, on sait que un peu, tout à l'heure, on parlait des départs de Justin James et Calgary. Voilà, c'est ce genre de joueurs qui sont draftés très bas, qui vont faire plus de jelly qu'autre chose, même si, bon, on verra son développement par la suite. Puis moi, j'aime bien le retour d'Alex Lane, un bon soldat comme on aime. En plus, 7 millions sur 2 ans, c'est pas énorme. Voilà, il passera dans la hiérarchie, il sera, je pense, derrière Holmes et Thompson, qui, aussi, de par sa signature, amène de l'expérience. Et je pense aussi que le trade qui a été monté pour l'obtenir était plutôt dans l'optique où je pense que les Kings ne pensaient peut-être pas re-signer Holmes. Enfin, qu'il accepterait ce contrat de 46 sur 4, qui est un très, très, très bon coup. Donc voilà, et on peut voir déjà que Thompson amène son expérience et que le vestiaire l'aime beaucoup et qu'il va avoir un rôle un peu à la Sean Peart comme on avait pu avoir il y a quelques années. Sinon, je l'ai déjà dit, je suis un peu ennuyé par le départ de Delon White. Malheureusement, il fallait qu'il parte parce que c'est un peu bouché. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait apporté sur les quelques mois qu'il a fait chez lui. Je lui souhaite vraiment d'avoir un bon passage aux Hawks parce que c'est un très très bon joueur, très polyvalent, et derrière Trae Young, je pense que ça peut le faire.
Et on va passer tout de suite à la preview de la saison. Quel pourrait être le 5 majeur probable pour cette saison ? Moi, j'ai ma petite idée en tête et je pense qu'avec ce qu'on a vu sur les premiers matchs de pré-saison, il y a de grandes chances que ça arrive. Pour moi, le 5 majeur probable, c'est De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Harrison Barnes et Richaun Holmes. Alors pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, on a l'impression que Luke Walton se dirige de plus en plus vers des setups à trois arrières. Donc voilà, c'est aligner Fox, Haliburton et Hield va dans ce sens, de cette nouvelle philosophie. En tout cas, Richaun Holmes, c'est un lock sur le poste de pivot. Harrison Barnes, c'est un lock dans le 5 majeur également. On sait qu'il a été très utilisé au poste 4 l'année dernière. Donc je pense que ça va continuer cette année. Ensuite, derrière eux, je pense que le sixième homme sera évidemment Devion Mitchell, qui, je pense, a été drafté pour suppléer De'Aaron Fox. Et la rotation principale derrière Devion Mitchell, je pense, sera Tristan Thompson, sera Marvin Bagley, Mo Harkless et Terrence Davis. Luke Walton, d'ailleurs, a précisé après le match contre les Clippers, là, donc c'est tout récent, qu'il se dirigeait a priori vers une rotation à 12-13 joueurs. Parce que selon lui, il y a entre 12 et 13 joueurs qui méritent des minutes dans la rotation. Donc on verra ce que ça donnera sur ce point. Et toi, Laurent, du coup, quel est le 5 majeur auquel tu penses du coup pour cette saison ?
Je suis plutôt d'accord avec toi, sauf que pour moi, Hield au poste 3, ça m'inquiète énormément en défense. Déjà qu'au poste 2, en défense, c'est compliqué. Alors au poste 3, quand il va se taper des Kawhi, enfin des très gros joueurs, des Durant, tout ça, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que je laisserai Barnes en 3 et je mettrai Bagley en 4. Bagley, on en dit ce qu'on veut. Cependant, si toutefois McNair est toujours dans l'idée de s'en séparer, il faut qu'il joue. Forcément, il faut qu'il joue. Et tu n'es pas obligé de le laisser 40 minutes par match. Hein. Tu peux le mettre dans le 5 majeur. Et s'il prend l'eau en défense, qui est beaucoup arrivé la saison dernière, tu le fais sortir au bout de 3-4 minutes pour repartir sur un 5 majeur avec 3 guards. Donc voilà, moi le 5, je mettrais le même, sauf que je mettrais Bagley en 4 et laisser Barnes en 3, même si Barnes en 4 l'année dernière avait fait pas mal de taf quand il y a eu pas mal d'absents. Après, effectivement, sur les rotations, on a ce qu'il faut au niveau défensif. avec Tristan Thompson, Davion Mitchell, Mo Harkless aussi, il défend pas mal. Donc, il y a ce qu'il faut. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'effectif de cette saison, ce qui a changé, ce n'est pas un chamboulement total, mais une profondeur de banc avec des joueurs qui peuvent apporter défensivement. Et je pense que Monte Wagner était vraiment axé là-dessus.
Je pense que le trigger line-up, comme on en a parlé juste avant, occupera une place importante cette saison. Puis voilà, il y a beaucoup de. On est assez chargé sur les postes derrière, hein, avec Fox, Haliburton, Hield, Mitchell, Terrence Davis. Voilà, on a cinq garçons qui peuvent tourner sur les deux postes, sur les postes 1, 2, 3, pardon. Et donc, voilà, qui seront alignés selon différentes combinaisons. Luke Walton en a déjà testé plusieurs contre Phoenix. Il en a testé d'autres contre les Clippers. Voilà, donc il y a environ 6-7 combinaisons qui ont déjà été testées. Voilà, il va continuer à le faire. Et je pense que voilà, c'est plutôt une bonne chose pour arriver à imposer un jeu rapide, pour assez tourner vers l'attaque. Puis en même temps, on a des gars qui savent défendre. Hein. On a quand même Terrence Davis qui sait bien défendre, Davion Mitchell qui est un excellent défenseur. Haliburton qui, même s'il n'est pas très physique, est un défenseur intelligent, donc il saura faire le boulot. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait sens aujourd'hui.
Disons que l'optique de jouer à trois guards, forcément, ça rapetissait le 5. Et oui, les joueurs intérieurs, forcément, vont se retrouver avec moins de minutes. Et puis, le fait d'avoir signé Lane et Thompson, ouais, tu as raison, ça bouffe la raquette. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de Mitchell, de Fox, d'Haliburton, voire de Hield. Bon. Ça fait 4 joueurs avec peut-être 20-30 minutes. Donc c'est sûr qu'ils vont tourner à 3-4 sur le reste. Perso, je préfère voir un Metu qu'un Alex Len, même si Metu pourrait forcément jouer poste 4. Je pense que Metu sera dans la partie Bagley. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Dans la partie Bagley où ça va se taper, là, ça reste 2 jeunes joueurs. Au poste 15 plus qu'au poste 5. Je pense que ça va se battre là-dessus. Je l'ai dit lors de précédents podcasts, je veux voir Metu. Je pense qu'il a de belles qualités. C'est encore un jeune joueur formé à l'école Spurs. Donc je pense qu'il peut apporter à voir ce qui se passera au fil de la saison, au niveau des blessures, au niveau peut-être même des résultats. On aura peut-être besoin de lui plus tard. Mais ouais, je crois qu'il a joué 6 minutes le dernier match. C'est un peu court pour pouvoir prouver quelque chose et qui pourrait éventuellement avoir un rôle important dans l'effectif.
Alors la question du coup c'est est-ce que le fait de voilà d'avoir ce backcourt assez chargé, est-ce que ce sera suffisant pour amener de la régularité à cette équipe à ton avis?
Je serais tenté de te dire oui, si toutefois il n'y a pas de blessure, si toutefois Fox se met à défendre. Parce que je l'ai souvent dit la saison dernière, offensivement, c'est incroyable, Fox. Défensivement, il a permis à des joueurs, des meneurs moyens, de faire leur meilleur match. Je pense notamment à Kobe White, qui avait mis 36 points, 38 points contre nous. Voilà, Kobe White, c'est pas non plus Westbrook ou Kyrie Irving. Et tu le dis souvent, Olive, le fait qu'il donne beaucoup en attaque, effectivement, en défense, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un jeune joueur, c'est un mec qui a des cannes. Je pense qu'il peut défendre correctement. Donc, oui, de la régularité, oui, ça apporte. Parce que on l'a vu lors du dernier match. Tu sors Fox et Haliburton, tu fais rentrer Mitchell et Buddy Hield. C'est pas dégueulasse quand même. Sur le papier, c'est pas dégueulasse. Maintenant, il faut que tout le monde défende. Et c'est même pas une question d'effectif qui amènera de la régularité. C'est juste une question défensive. Si on défend, effectivement, on sera plus régulier et effectivement, on n'aura pas 2 séries de 9 défaites de suite. Ou soit on continue d'en prendre 120, 125 et là, tu pourrais être offensivement être ce que tu veux, être les Warriors de 2015. T'avanceras pas et t'iras nulle part parce que bah, les défenses font gagner les matchs, elles font gagner bien plus d'ailleurs. Et c'est pour ça que je parlais de la signature de Doug Christie, qui est très très importante. Parce que je pense qu'il saura insuffler, et aussi Davion Mitchell, et ça en parle déjà à Sacramento, que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il apporte déjà ce côté défensif. Je pense que c'est un peu tout ça. C'est pas une question d'effectif qui amènera la régularité, mais vraiment une envie collective de vouloir défendre.
Bah, je pense voilà, que comme je l'ai dit juste avant, c'est voilà, il y a une rotation intéressante qui est assez complémentaire, qui voilà, qui a des bonnes capacités en attaque, a de bonnes capacités en défense. Il y a du playmaking, il y a du shoot à trois points, il y a du QI basket, il y a de la défense. Donc voilà, ces cinq arrières qui sont plutôt complémentaires, donc qui je pense peuvent amener de la régularité à cette équipe. Après voilà, il y a quand même du monde après sur l'extérieur, hein, sur les ailes et à l'intérieur, évidemment. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir chargé le bas-court n'est pas forcément une mauvaise stratégie, à la mesure où voilà, on se dirige tout droit vers une saison à base de trigger line-up tous les soirs, quasiment.
Puis il y a Thompson Hellen hein, sur le banc dans la raquette. C'est solide, c'est de bons soldats. Ça change de l'autre Baobab Whiteside qui était perdu sur chaque écran. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est voilà, l'effectif a été vraiment étoffé par rapport à des joueurs à l'aspect défensif. Bon, en espérant aussi qu'il n'y ait pas de blessure, même si on s'est un peu étoffé sur le banc, voilà, on va dire que tu es un Fox et un Liberton blessés en même temps, comme on a pu voir en fin de saison dernière, ça a été plutôt catastrophique. Donc voilà, faut espérer. C'est un peu un tout en fait qui fait que ouais, on peut rêver de régularité. Tant qu'on ne fait pas deux séries de 9 défaites consécutives là, dans la saison, je serais déjà très content.
Donc, à ton avis, Laurent, quel sera le facteur X, en fait, hors 5 majeurs, évidemment.
Marvin Bagley. Moi, je le mets dans le 5. Mais s'il n'est pas dans le 5, il peut être le facteur X. Et j'ai dit pareil l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Peut-être que je suis un éternel optimiste. Je pense que cet été, il est passé entre les mains de Doug Christie. Je pense que ça a dû l'aider, quoi qu'il en soit. Bagley est un joueur qui a du talent plein les mains. Il faut juste qu'il puisse enchaîner les matchs. C'est-à-dire ne pas faire 82 matchs. C'est peut-être beaucoup demandé pour un joueur qui a été pas mal blessé depuis le début de sa carrière. Mais je pense qu'il y a un bug. Et on le dit, toute la fanbase des Kings le dit, que ce soit toi, que ce soit Flo, que ce soit Alex. Bagley peut tourner en 22-10. En marchant. Et on l'a encore vu hein, contre là, les Suns, il fait un bon match. Mais le problème, c'est qu'il ne pèse pas. Il fait des stats, mais il ne pèse pas. Et ça, c'est problématique. J'espère juste vraiment que sa défense s'est améliorée. Parce que les dernières, le pauvre, on l'a vu, dès le début de match, il a été visé directement par les attaques adverses. Et il a pris l'eau. Il a vraiment, je crois qu'on avait vu un rating défensif, il était hors plan carrément. Tellement il se faisait rouler dessus, il était en bas, mais en bas, en dessous l'image. Donc ouais, je souhaite vraiment qu'il prenne confiance en fait, c'est juste ça. C'est même pas une question de faut qu'il me prenne confiance en lui. Il peut le faire, donc je pense qu'un Bagley à 100% pourrait être le facteur X. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne pense pas que toi, tu penses à Bagley. Mais pour moi, c'est le facteur X.
Alors moi, du coup, si je devais citer un joueur facteur X sur cette équipe, je dirais Tristan Thompson. Je pense que son arrivée est assez sous-estimée. Voilà, c'est quand même un pivot qui a 10 ans d'expérience en NBA. Et voilà, qui est un vétéran et qui a une volonté voilà, de prendre les jeunes sous son aile. Il a déjà dit avec Marvin Bagley voilà, qu'il souhaitait lui donner des conseils, qu'il souhaitait le prendre sur son aile, l'accompagner. On a vu également que pendant le training camp, voilà, il y a eu beaucoup de louanges au sujet de Tristan Thompson, voilà, de son équipe de travail, de son éthique de travail, de sa mentalité, au niveau de ce qu'il amène, au niveau de la cohésion d'équipe. Donc je pense que voilà, ça peut être amené à être un leader de vestiaire pour un peu aider Harrison Barnes dans ce rôle de vétéran leader qui l'assumait très bien jusqu'à maintenant. Et voilà, on n'a jamais assez de vétérans leaders, de leaders vocaux dans les vestiaires. Donc je pense que l'acquisition de Tristan Thompson est une bonne chose. Et également, mais évidemment, il apportera toujours sur le plan sportif. Hein, il n'a que 30 ans, donc il est encore en forme et il est encore capable de faire des choses. Il a un petit jeu au poste sympathique, il va pouvoir apporter de la défense. Donc pour moi, l'acquisition de Tristan Thompson peut vraiment faire la différence sur cette saison.
Après là, on enregistre, nous sommes le 6 octobre, on ne sait pas ce qui va passer avec Ben Simmons. On sait qu'il était dans l'avion pour aller à Los Angeles. Mentalement, voilà, pour un joueur, mettez-vous à sa place. Mais peu importe le niveau où vous avez joué, on vous met dans, limite dans l'avion pour aller jouer avec une équipe qui va viser le titre. Finalement, vous restez là et vous voyez des mecs comme Kyle Kuzma. Enfin bref. Mais à voir, sachant que Hill et Bagley sont les deux joueurs cités, quoi qu'il en soit, s'il doit se passer quelque chose auprès de Ben Simmons. Ben Simmons, à l'heure actuelle, c'est un dossier compliqué, mais je pense que quoi qu'il en soit, on sera impliqué. Ça peut être un deal à 3, 4, 5, 6 équipes, comme on a déjà pu voir lors des saisons précédentes, mais je pense qu'on sera dans la boucle. Donc, à l'heure actuelle, oui, on parle de Bagley et de Hill, mais il faut garder dans un coin de la tête que d'ici, je crois que notre premier match est le 17-18 octobre, cette preview sera caduque et on l'aura enregistré un peu pour rien parce que les joueurs seront partis ailleurs.
Donc du coup, quels sont les objectifs de la saison ? On en a un peu parlé assez largement déjà. C'est évidemment le renforcement de la défense. On l'a vu avec on a vu assez clairement la stratégie de Monte McNair qui est de renforcer la défense de cette équipe. Lui, les stats défensives de l'année dernière, là, la deuxième pire defensive rating de tous les temps, là, lui, ça ne l'a pas fait vraiment rigoler du tout. Vraiment pas du tout. Lui, il a pris ça très au sérieux. Du coup, cet été, voilà, il a re-signé les gars qui apportent en défense, à savoir Harkless, Davis. Il est allé chercher un joueur à la draft qui est un bon défenseur extérieur, à savoir Devion Mitchell. Un pivot également, on oublie Nemias Keita, puisque pour l'instant, il va pas jouer avec l'équipe principale, mais voilà, il a été recruté pour sa défense notamment. Monte McNair avait fait cette remarque. Il avait dit comment un joueur de 2m13 peut et qui aligne 100 contres par an peut passer sous les radars. Donc lui, clairement, il voit très clairement en Keita un potentiel défensif pour l'avenir. Donc on espère qu'il sera suffisamment développé, en G-League cette saison.
Ouais, je trouve aussi. Après, on va peut-être en parler au niveau des bilans et des pronos. Est-ce que l'effectif actuel peut nous permettre de viser grand-chose ? Parce que l'ambition est au moins de viser le play-in, comme sur ces dernières années, deux dernières années, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette conférence Ouest, très très compliquée, même avec cette intersaison qui est intéressante dans le fond, encore une fois dans le fond, parce que le 5 risque de ne pas bouger, mis à part Haliburton qui rentre et il pourrait se déplacer au poste 3, il n'y a rien qui change. Donc l'ambition, oui, c'est de viser le play-in dans un premier temps. Mais est-ce que notre effectif actuel nous permettra de viser ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, oui, on ramène des joueurs qui défendent. Oui, ça peut servir, hein, évidemment. Oui, on va jouer rapidement parce que quand tu joues avec trois guards, forcément, ça va courir. Hein, entre Fox, Haliburton, même si ce n'est pas un des joueurs les plus rapides de l'histoire, il a un tel QI basket que ça permet de développer. Et tu avais mis lors du match contre Phoenix les passes qu'il arrivait à faire qui étaient tout simplement incroyables. Et Devion Mitchell aussi qui est un bon petit qui est une bonne petite locomotive, hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la photo, il a des cuisses à la Roberto Carlos. Donc ouais, on va jouer rapide. Ouais, encore une fois, ça va vraiment dépendre de notre défense. Si on arrive à trouver une stabilité défensive, je pense qu'on n'est pas moins bon que les Pels, je pense qu'on n'est pas moins bon que les Grizzlies. Voilà, je pense qu'on est dans le même range que cette équipe-là. À voir avec les Wolves ce que ça va donner. Ça va jouer un peu là-dessus, hein, ces équipes-là. Ça va tourner. Malheureusement, on joue dans la conférence Ouest et c'est pas évident de s'en sortir. Quoi.
Pour moi, un des autres objectifs, ça va être le jeu home tempo. On en a un petit peu parlé. Ça rejoint un peu un petit peu toute cette philosophie de jeu à trois arrières, évidemment. On l'a vu déjà sur ce début de pré-saison que jouer avec trois arrières qui galopent dans tous les sens. Buddy galope beaucoup, Fox évidemment, hein, j'en parle même pas, Haliburton, Mitchell, voilà, c'est des joueurs qui sont très actifs, très, très énergiques, qui sont capables de renverser le jeu, de jouer efficacement en transition. Et grâce à ça, on pourrait un peu revenir à ce qu'avait fait la force des Kings sous Dave Yorger il y a 3 ans maintenant. Voilà, c'est-à-dire ce jeu rapide, surprendre la défense, marquer beaucoup de points en transition. Et évidemment, du coup, le renforcement de la défense participera à cette, à ce développement du jeu en transition, parce qu'on sait que l'attaque provient de la défense. L'ambition, oui, pour cette saison, on l'a dit, c'est plutôt c'est viser le play-in, hein, au minimum. On pense que c'est un objectif qui est aujourd'hui qui est atteignable, sans qu'on ait fait une intersaison flamboyante. Voilà, c'est efficace. On a re-signé les joueurs qui ont bien porté sur la deuxième partie de saison. On allait chercher un joueur NBA ready à la draft. Voilà, on va donner plus de responsabilités à Liberton. On a re-signé Richon Holmes. Voilà, donc il y a. Ok, on repart avec plus ou moins le même groupe, mais voilà, il y a des petits éléments qui viennent se rajouter, les Tristan Thompson, les Devion Mitchell, les Alex Len, voilà, qui peuvent faire une petite différence sur ce groupe, qui viennent renforcer le groupe défensivement et offensivement. Donc voilà, ça peut faire la différence sur une saison. Je pense que le groupe aujourd'hui est bien équilibré. C'est Monte McNair lui-même qui l'a dit en conférence de presse, qui trouvait que voilà, qu'il y avait beaucoup de possibilités, qu'on pourrait s'adapter à tous les match-ups, en fait, avec l'effectif qu'on a. Donc je lui donne plutôt raison pour le moment. Quel est ton prono, du coup, toi, Laurent, pour cette saison?
On aimerait pouvoir se tromper, en fait. On aimerait pouvoir être surpris et de se dire, oh merde, on s'est gouré. Malheureusement, je pense que ce sera une fois de plus pas le cas. J'aimerais nous voir dans le playing. Voilà, j'aimerais nous voir dans le playing, que ce soit 10 ou 9-9, ça va être compliqué. On va dire, on va viser la 10e place. Voilà, je pars là-dessus. Sur un bilan, je crois qu'on nous a mis à 36, si je ne me trompe pas. J'y vais être optimiste, je vais mettre 39. 39. Et si on arrive à ne pas faire les conneries qu'on a fait ces dernières saisons, c'est-à-dire d'aller battre Dallas chez eux, de battre Denver et ensuite enchaîner par des défaites contre des équipes à nos portées. Et ça, on le sait très bien comment ça se passe. On pourrait même le prédire. Si on arrive à corriger ça, c'est-à-dire de pouvoir taper les équipes qu'on devrait taper, je pense qu'on ne peut pas viser le 50% parce que ça va être compliqué. Et on a pu voir lors de cette intersaison que les équipes de l'Est se sont pas mal renforcées aussi. Mais si, sur l'alignement des planètes, voilà, c'est l'année du record cette fois-ci, si on ne le fait pas. Si l'alignement des palettes, ça se passe bien. Je pense qu'on peut finir dixième avec 39 victoires.
Dixième, près de 40 victoires. Enfin, la conférence Ouest. C'est un bordel.
Alors, tu sais qu'à l'Est, potentiellement, tu peux être huitième avec un 8e, 7e avec un bilan négatif, quoi.
Le mien, du coup, ce serait... Voilà, je te rejoins à peu près sur ce point. Voilà, j'ai un prono qui oscille entre 38 et 39 victoires. Je pense que ce sera suffisant pour atteindre le play-in. Je m'explique. Voilà, la saison dernière, on a vu, voilà, on a fini la saison avec 34 victoires. 34 victoires en ayant aligné deux séries de défaites, on l'a dit. Donc voilà, c'est si on arrive à récupérer à revenir à une certaine régularité dans les résultats, pas faire des grosses séries de défaites comme ça, faire des petites séries de défaites, c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, pas faire des grosses séries de défaites, voilà, c'est quelque chose qu'on veut plus voir cette saison. Je pense que si on arrive à avoir cette régularité, on peut avoir l'ambition de participer au play-in, évidemment. Voilà. Après, avec tout ce que ça implique, hein, avec une qualification ou pas en play-off, avec le record d'années sans play-off qui nous tend les bras. Mais voilà, je pense que ce serait déjà un signe encourageant pour les années à venir. Ce serait une bonne base.
Et qu'il n'y ait pas de blessure. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de blessure. Parce que deuxième partie de saison, ça nous a aussi coupé les jambes. Hein. Fox, Haliburton... Bon, Wagler, on a l'habitude, je crois que même Bart a été blessé. Enfin, tout le monde est passé à l'infirmerie. Donc, c'est pour ça que je parle d'alignement des planètes. Si ça tient, et on espère que le staff médical fera le taf, ouais, je pense que 38 39, voilà, c'est pas... Est-ce qu'on est objectif par rapport à ça? Je pense pas, évidemment, sinon, ce serait pas marrant. Mais c'est faisable. Je pense que c'est faisable, et comme je disais tout à l'heure, ça va tourner avec les Grizzlies, les PLs, qui ont sur le papier peut-être de meilleurs effectifs que nous. Mais voilà, ce qu'on a pu faire dans cette saison peut être intéressant et peut nous amener, même si je ne sais pas si le fait de faire les play-in coupera la série des play-offs, je ne pense pas. Donc, quoi qu'il en soit, bon, on va encore avoir droit à des moqueries pendant X temps. Surtout que voilà, on arrive dans la saison 2021-2022, ça va faire 20 ans pour les Kings de cette série maudite face aux Lakers. Ce serait vraiment chiant si on pète le record de saison sans playoff sur une saison entre guillemets anniversaire comme celle-là. Ça me ferait tirer les cheveux que j'ai pas, quoi.
Et du coup, on va passer à la troisième et dernière partie du podcast qui est les questions du peuple. Donc dans cette partie du podcast, voilà, on va vous interroger sur Twitter pour savoir quelles étaient vos questions un peu brûlantes concernant le bilan de l'été et le preview de la saison. Donc on a sélectionné 2-3 questions auxquelles on va répondre rapidement.
Ouais, alors je commence par Dédou qui nous demande si Tyrese Haliburton est un joueur intransférable. Non, il n'est pas intransférable, je ne pense pas. Je pense que s'il doit être intégré dans un trade pour Ben Simmons, il partira. Ça nous ennuierait fortement. Mais voilà, Ben Simmons, même si c'est un peu la Zumba de l'été, pour moi, Ben Simmons nous ferait passer un cap, ne serait-ce que défensif, même si je pense qu'on le ferait jouer 4 dans notre effectif. Voilà, je pense que même si on a refusé dans un premier temps de le balancer à Philadelphie, entre Fox et Haliburton, voilà, c'est Haliburton qui partirait. Même si j'espère et que le temps joue en la faveur des équipes qui pourraient accueillir Ben Simmons, je ne pense pas qu'il soit vraiment très, très, très intransférable. Et si c'est un gros, gros joueur qui arrive, je pense qu'il pourrait plier bagage. Clémar qui demande si Fox est un franchise player. Je vais parler de ce qu'a dit Trash Talk, les copains, là, pendant la preview, qui disait que si ça se passe mal, pourquoi on n'irait pas trade Fox en février? Je pense que c'est le futur, Fox. C'est le présent et c'est le futur. Il a encore des points à améliorer. Hein. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure au niveau de sa défense. Mais voilà, bordel, un mec qui est en 27-7, je crois, c'est un truc comme ça. Ouais, 25-7, pardon. Et si on le dégage à la trade deadline... Ça ferait un peu comme quand on a bougé Cousins. Tu vois ce que je veux dire ? On dégage un franchise player pour rebâtir encore sur 4-5 ans. Non, le projet aujourd'hui, c'est Fox. Et on bâtit autour. On a la chance d'avoir Haliburton, qui, on ne sait pas dans le futur. Pour moi, c'est le duo du backcourt. Comme il y a les 3-4 ans, on disait avec le backcourt Fox-Hill. On a ça pour bosser. On a Devin Mitchell qui est, entre guillemets, un vieux rookie de 23 ans. Mais c'est un rookie quand même, c'est de la jeunesse. Ça ne nous amènera peut-être pas en playoff. Ça ne nous fera pas grimper dans le classement. On ne sera pas 6e, on ne sera pas 5e. Mais Fox est le franchise player. Il faut bâtir autour. Il a 23 ans comme Mitchell. Toutes les années, il progresse. C'est pas comme s'il avait stagné sur une saison. On se pose des questions, on se dit « Ah ouais, machin, il stagne un peu. » Non, le mec, il continue de progresser. Cette année, peut-être qu'il marquera moins de points parce qu'il y a des mecs autour de lui qui peuvent le faire, comme tu disais tout à l'heure, Olive. Mais Fox, c'est le franchise player. La question, j'allais dire, je comprends pas que la question se pose. Si, la question peut être posée. Mais la réponse ne peut pas être autre que oui, c'est un franchise player. Malheureusement, aux Kings. Dans un effectif qui, à l'heure actuelle, risque d'être encore un petit peu court pour viser autre chose que play-in. Et je vais finir sur la dernière question de Matisse, un habitué du compte. Comment gérer les rotations sur les postes 4 et 5? Pour moi, on enlève Keta qui ne sera pas forcément dans la rotation. Donc, ouais, ça va tourner autour de ça. Comme je disais tout à l'heure par rapport à Metu, ça va. Oui, effectivement, le fait de jouer avec des guards, ça va limiter le temps de jeu des intérieurs. Mais bon, voilà, il y a de la hiérarchie est faite et ce sera. Je ne vais pas dire que ce ne sera pas la priorité de faire jouer les intérieurs. Mais si on part sur un axe Mitchell, Haliburton, Fox, forcément Barnes pourrait jouer 4 en plus. On pourra peut-être décaler Barnes en 4. Donc ouais, ça fera encore moins de temps de jeu pour les autres intérieurs. C'est pour ça que dans le même été, voir Lane et Thompson arriver, c'est ce qui me fait penser qu'on ne pensait peut-être pas que Holmes accepterait 46 sur 4. Donc voilà, je pense que Lane sera 3e et ça va tourner, comme tu disais, avec Holmes, Thompson, Barnes peut-être au poste 4 Et après, ça va se battre. Len, Baglem et tout pour essayer d'avoir le temps du restant.
Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode de Sacramento Talk et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.
Merci à tous. Big up.